Bienvenue sur le podcast de Fitness Miss. Alors, si vous ne le savez pas encore, moi je suis quelqu'un de passionné par tout ce qui est développement physique, développement personnel. Et mon obsession, c'est de réussir à booster l'énergie au quotidien, d'avoir de meilleurs résultats à la salle de sport, de faciliter l'accès à la diète saine pour tout le monde. Et puis voilà, ça fait déjà pas mal. Donc si tu débarques ici, sache que ça va être que des épisodes basés là-dessus. Et que si tu l'apprécies, tu peux laisser une évaluation sur l'application de podcast sur laquelle tu te trouves. Après, si tu veux aller plus loin, sache que je propose des formations longues sur mon site sur les mêmes thèmes, mais avec beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de contenu et des programmes à télécharger, etc. C'est une seule adresse, www.fitnessmiss.fr. On démarre. Et voici la deuxième partie du podcast avec Mousse Mégatron. Donc je rappelle que c'est une interview et un témoignage. Donc notez bien les petits avertissements que j'ai mis la dernière fois dans la partie 1. Donc je vous laisse ici et passez un très bon moment avec nous. Et n'hésitez pas à commenter et à partager cet épisode s'il vous a plu. Moi au début quand t'as démarré, je me suis dit qu'est-ce qui va j'étais curieux de voir en fait le physique que t'allais afficher, parce que tu disais quand même que tu souffrais beaucoup, que c'était difficile pour toi, que t'étais un peu loin de tes entraînements d'avant par rapport à la fréquence, etc. Je me rappelle même que pendant une période tu disais que tu pouvais plus que t'entraîner 15 jours sur 2, c'était la seule technique que t'avais trouvée pour pas trop souffrir.
J'ai jamais fait ça.
Et du coup j'étais vraiment curieux de voir comment t'allais, parce qu'on voyait au début tes entraînements. Moi, j'ai regardé un petit peu. Bon, t'as précisé dedans que tu disais que je filme que ce qui est, entre guillemets, filmable. Quand ça commence à devenir trop hardcore, tu filmais pas, quoi. Parce que t'avais besoin de ton partenaire. C'est normal.
Et me concentrer.
Voilà. Et finalement, t'as réussi. Mais qu'est-ce qui a fait cette différence, finalement, au niveau de l'entraînement, durant cette préparation? C'est parce que tu t'entraînais déjà comme ça avant? Ou tout simplement, tu savais comment il fallait que tu t'entraînes maintenant par rapport à la compétition, t'as réussi à contourner les douleurs un petit, enfin, à contourner non, t'avais mal, mais je veux dire, réussir à pas faire de super lourd et quand même t'es remonté à un poids de corps et puis à une densité musculaire et assez rapidement en plus, hein, parce que la prépa, elle a pas duré très longtemps non plus.
Non, 19 semaines. Non, comme je l'avais dit au début, j'ai eu de la chance, voilà, d'accorder vraiment une importance particulière à l'entraînement. D'avoir étudié plusieurs systèmes d'entraînement et d'avoir surtout compris ma propre personne, mes propres faiblesses. Donc, dès le début, démarrer à 53 kilos, je savais déjà que mon squelette, à la base, n'était pas fait pour ce sport, par rapport à ma structure. Tu vois, c'est quand t'as un petit squelette, des petites articulations, ça donne des bons muscles, parce que si t'as de la chance en plus d'avoir des rondeurs musculaires qui partent sur des petits attachements à la flex wheeler, c'est rendu juste magnifique. Ça, c'est soit tu l'as pas. Donc, j'ai jamais, bon, en fait, le fait de démarrer, en fait, dans l'école. C'est pour ça qu'on l'a toujours dit, il y a deux écoles d'entraînement. Serge Lubré, beaucoup de répétitions, heavy duty, Mike Menzer. J'avais compris depuis le début que c'est pas possible. Mike Menzer, c'est pas pour moi. Parce que sinon, depuis le début, je pense que j'aurais suivi cette méthode. Pour faire des muscles, il faut travailler lourd. 4-6 répétitions. J'ai toujours trouvé ça stupide. Tu te flingues. Je me serais flingué.
Ouais, et puis donc, nerveusement, faut pouvoir l'encaisser, parce que une séance, enfin moi je le vois quand je fais du très très lourd, le lendemain, je suis dépressif. Enfin, je veux dire, tout mon système nerveux, il est, j'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose, que je vois la vie en noir, quoi, à une séance énorme de cuisses.
Pas. Dorian Yates, c'était unique parce que son cerveau pouvait encaisser ça, parce que ses articulations pouvaient encaisser ça, et c'est pour ça qu'il ne comprenait pas. Il ne faisait pas qu'une seule série. Il y a eu des séries au début, il y a eu 3-4 séries de préparation par rapport à la série effective. Ouais. Mais dans la série effective, c'est une série qui peut durer 2-3 minutes, parce qu'il balance tout dedans, entre du grissif, entre du respose, entre du négatif, donc il y avait tout. Mais ça, il faut vraiment être capable. Et c'est pour ça qu'il ne s'entraînait pas beaucoup. Parce que c'était pas possible. Il était conscient que la récupération était très importante par rapport à comment ils s'entraînent. Parce qu'il y a des gens qui font que je récupère alors qu'ils n'ont même pas fait le dixième de ce qu'ils font. C'était ça. Et donc, avec la méthode sur Serge Lubré, de toute façon, c'était 5 séries par groupe musculaire et c'était 15 à 20 répétitions. Ça m'a beaucoup aidé parce que, comme je dis souvent, quand la charge est lourde, ton cerveau commence à penser comment je vais faire pour déplacer cette charge. Ça, c'est le powerlifting.
Ouais.
Quand c'est de la stimulation, quand c'est de la création, quand c'est du travail musculaire et que tu fais du high repetition comme 15 ou 20 ou 12, là, c'est pas pareil. Non seulement il faut que la technique soit propre, il faut être très capable mentalement de surpasser la brûlure, de surpasser la douleur et de rester concentré répétition après répétition sur le muscle que tu travailles.
Et ça, il n'y a pas beaucoup de monde qui en parle de ça. Parce que là, tu vois, je tiens à préciser une chose. On l'entend souvent et peut-être que les gens, moi, ils m'ont pas souvent entendu le dire, mais faire une série de 20, par exemple, de 20 répétitions, même sans se concentrer sur le muscle, c'est difficile. Parce que ça brûle, etc. Mais quand on se concentre vraiment à contracter le muscle pendant 20 fois d'affilée, on peut pas faire 30 séries dans la séance comme ça. C'est pas possible. Enfin, je veux dire, déjà, quand on a fait une série de 20, la congestion, elle est violente.
Je comprends maintenant, quand je dis souvent, prends un halter de 10 kilos et transforme-le en halter de 50 kilos.
Ouais.
C'est la contraction qui fait la différence. Si tu contractes à fond sur chaque répétition, crois-moi déjà que si ta technique est propre, on va parler d'un curl. C'est que le biceps qui travaille. Dès que tu commences à travailler un peu plus lourd, la première action, il vient du grand dorsal pour te donner ce coup de balancement. Il vient de l'intérieur. Donc, il n'y a pas 100% qui part sur le biceps. Peut-être tu as 40%. Et le reste a été pris par les gros muscles qui sont là pour aider. Mais comme beaucoup de gens ont ce problème d'ego, ben, ils passent à côté. Est-ce qu'on a déjà parlé des poids qu'il utilise les Labradas? Sean Ray, Francis Benfato, non, mais depuis, Dorian Yates est arrivé avec son travail lourd, suivi par Ronnie Coleman, suivi par ça, ok, il faut qu'on travaille lourd. Non, tout est relatif. Si le travail lourd donnait des culturistes, dans ce cas-là, tous les powerlifters, ils auraient été culturistes. C'est ce que je veux dire.
Ouais.
Et c'est pour ça que je l'avais dit il y a pas longtemps que ton place avait compris. Comment travailler lourd, augmenter l'intensité, augmenter le nombre de répétitions. Mmh. Et encore, on est différents. Il faut savoir trouver ce qui convient. C'est pour ça, pour moi, dans un entraînement, il faut tout y avoir. Entraînement lourd, des longues répétitions, contrôler le rythme, un rythme rapide, du drop set, du négatif qui est très, très, très important, le négatif, parce qu'encore, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, mais le muscle est beaucoup plus faible, n'a pas l'habitude de travailler en négatif qu'en explosif. Donc, et comme aujourd'hui encore, avec YouTube et tout ça, les gens sont paumés. Quand je démarre avec des clients, il faut rester basique sur l'entraînement des pectoraux. Moi, ce que je veux, c'est que, bien sûr que je joue toujours, j'essaie de jouer avec la confusion. Pas faire toujours la même chose. Mais mon objectif à la fin dans notre travail pectoral, c'est que chaque partie du pectoral a été travaillée. Supérieur, externe, au milieu. Donc, je choisis très bien mes mouvements. Mais si tu passes ton temps sur un débutant à changer les exercices, il ne saura jamais comment faire des écartés. Jamais faire un coucher propre sans l'intervention des épaules et le reste, un incliné. Donc, il faut avoir la base. Sans base, on peut rien faire.
Et le problème, c'est que cette base n'existe plus aujourd'hui.
Mais oui, mais parce que les gens sont paumés. Et parce que les gens ne savent plus qui suivre, qui croire. Et donc, c'est clair que, à mes débuts, sans les bulles en arrière, bien sûr que je travaillais lourd. Mais moi, j'ai toujours été. Travailler lourd pour moi, je travaille en lourd, mais en high volume, en beaucoup de répétitions. Je ne peux pas. Travailler en série répétition et répétition, c'est pas possible. J'étais monté à 220 au squat, et même à 200 kilos, mon esprit, il fallait qu'on en sorte 20.
Oui.
C'est ce que je veux dire. J'allais pas monter à 250 pour faire 4 répétitions. À un moment donné, je l'ai fait ça juste sur un an. Quand je suis parti de la première salle où je m'entraînais, je suis parti à Saint-Gratien dans une salle de powerlifter. Et là, c'était presque des max de partout. C'était des 2 répétitions, 3. Ça avait beaucoup changé mon corps parce que l'alimentation avait changé. J'ai commencé à travailler en supermarché et le supermarché, c'était ma cantine.
Ouais, d'accord.
Tu vois ce que je veux dire? Donc, non seulement je travaillais très lourd et en même temps, je mangeais. Là, j'étais gras comme un cochon, mais au moins, c'était un entraînement pour mon estomac et l'entraînement avait changé. Et là, sur cette préparation, c'est clair que c'est les blessures qui m'ont poussé à changer encore plus comment je m'entraîne. La chose que je faisais le plus, c'est du pré-fatigue.
Ouais.
Du pré-fatigue, parce que je ne pouvais pas juste m'allonger sur un incliné et faire des répétitions à 130, à 150 comme je le faisais avant. C'était pas possible. Donc, il fallait que je fasse beaucoup d'écarté, beaucoup de câbles, beaucoup de choses comme ça avant d'arriver sur un mouvement de base. Et comme j'étais déjà pré-fatigué, moi, c'est clair, au lieu de mettre 100 kilos, bah, je mettrais 50 kilos. Je me concentre encore plus sur la forme. C'est pour ça que je dis souvent ça à mes clients. Quand tu fais un couché, par exemple, c'est pas juste de la mécanique. Déjà, je suis bien arché, je sais déjà que mes épaules vont pas intervenir, je sais que mes triceps vont pas intervenir, et la contraction musculaire, elle démarre depuis le début. Donc, j'engage mon muscle au démarrage. Et quand je pousse, comme je contracte mon mouvement, il est lent. Là, t'as pas le temps de contracter peut-être à la fin. À la fin, c'est pas ça le plus important. C'est depuis le début. C'est presque, en fait, tu démarres de 1, 2, 3, et à chaque fois, tu contractes de plus en plus jusqu'à la fin.
Ouais.
Je fais pas ça tout le temps. Il y a des fois, si tout va bien, c'est toute une question pour moi d'avoir le feu vert ou le feu rouge.
Ouais.
J'ai le feu vert, je sens que tout va bien, j'y vais, tout va bien, je ne sens aucune douleur. Donc, j'essaie de mettre un peu plus lourd. Et c'est là où je pense que les gens n'ont pas compris, parce que quand tu le vois, bon, c'est par rapport à ce que j'ai filmé, déjà parce que je suis très soucieux de comment l'exercice va être filmé, comment il va être aperçu, tout ça. Donc, mon cerveau, il est avec le caméraman. Déjà, je suis limité. Moi, j'ai bien avoir mon cerveau 100% sur ce que je fais.
Ouais.
Et souvent, ce que je filmais, c'était ma première série.
Oui, ouais, pour montrer le mouvement, qu'est-ce que tu fais.
Comme j'ai dit, ça a été très dur pour moi de filmer cette préparation parce que c'est pas moi. Avoir le téléphone à côté de moi, de ma poche, ça, c'est pas moi.
Mais tu sais, j'en parle souvent de ça. J'en parle souvent avec un ami aussi passionné. Moi, pour mon site internet, bon, je t'en ai pas parlé, mais bon, j'ai un site internet où je fais des vidéos, etc. Si je décide de sortir le téléphone ou la caméra et de filmer mon entraînement, je fais un entraînement de merde. Parce qu'en fait, ça y est, je suis déconnecté.
Absolument.
Ah, est-ce que l'angle, il est bon? Est-ce que machin? Donc, du coup, je fais pas souvent des vidéos parce que j'aime trop m'entraîner, moi. Je peux pas faire des entraînements pour faire du vent, en fait. C'est pas possible si j'ai pas de temps à perdre. Et dès que je sors la caméra, alors soit, comme toi, les séries de chauffe pour montrer le mouvement, ou à la fin, la dernière. Mais
oui,
si je suis en plein milieu, c'est pas bon. Si
après 25 ans, plus de 25 ans de ce sport, chaque fois que je démarre l'entraînement, je tremble. Tu sais pourquoi? J'ai peur de louper ma séance.
Oui.
Au début, ne parle pas. Les gens me disent, mais qu'est-ce qui lui arrive? Au début, il faut pas en parler. Parce que c'est le premier exercice qui va déterminer mon intensité et la séance, comment elle va se dérouler. Après le premier exercice, surtout aujourd'hui avec les douleurs. Tu sais, j'arrive, j'ai mal partout. Et je peux pas démarrer, je vais démarrer comme ça. Je peux pas. Faut que je m'échauffe. Il faut que je mets mon cerveau à l'intérieur et que j'essaye d'éliminer cette douleur pour ne pas qu'elle m'empêche que ça devienne un enfer sur toute la séance. Donc, au début, je suis très sensible. Donc, une fois que le premier mouvement s'est passé, tout s'est bien passé, tu le vois sur moi, sur mon comportement, sur mon visage surtout. OK, c'est bon. Là, ça va être bon.
Ouais.
Tu vois, c'est parce que, comme tu l'as dit, on aime s'entraîner. L'entraînement, c'est tout. C'est ça qu'on aime dans ce sport. Et comme je le dis souvent, au-delà d'un sport, c'est un art. Je suis en train de construire ma propre création.
Oui.
Je veux dire, faut de ce que je dis. Moi, je sais, c'est la ligne, c'est la symétrie, c'est les proportions. Ce que je veux choquer les gens dans le sens, me regarder, waouh, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est ça que je veux entendre. Et souvent dans mes compétitions, c'est ce que les gens disent. Et ça, pour moi, ça méritait toutes les souffrances, tout ce que j'ai fait par rapport à ça. Parce que quand t'entends ça, non seulement les gens, tu les marques et tu peux donner une image de c'est accessible. Si on s'entraîne sérieusement et avec les années, on peut ensemble.
L'inspiration.
Bien sûr. Quand tu vois un mec hors norme, tu respectes, tu dis, waouh, mais j'ai pas envie de ressembler à ça. T'assures, tu respectes, parce que tu sais qu'il y a beaucoup de travail. Quand t'es respectueux, que tu sais le travail que ça a demandé, mais t'as pas envie. Mais quand quelque chose est bien sculpté, tu sais, quand les gens voient mes photos, tout ça, ah, waouh, symétrie. Mais ça, j'ai travaillé, ça. J'ai pas juste poussé comme ça. J'étais très soucieux du détail.
De l'analyse, ouais.
Bien sûr, mon pec, il fallait qu'il soit proportionnel avec mon épaule, avec mon bras, pour créer un ensemble. Faut que mon ischio soit équilibré avec mon quadriceps. Tu vois, c'est tout pour créer un beau physique. Parce que le culturisme, pour moi, c'est ça. C'est une chute d'avant.
Ouais. En tout cas, tu as bien réussi ton pari par rapport à ce comeback. Toi, je sais que tu vas trouver à redire, certainement, j'imagine, par rapport à tout ça. Mais bon, apparemment, tu dis que c'est la meilleure. Là, tu te sens bien en ce moment. Donc,
je commence à me sentir bien parce que je refais ce que j'aime. Je commence à avoir des rêves, je commence à avoir encore des projets parce que, comme je te disais, mon chef-d'œuvre n'est pas fini. Cette image que j'ai de mon physique fini, qui est dans mon cerveau, parce que c'est comme un artiste, c'est comme ça que je travaille, je sais exactement comment mes pectoraux, je veux qu'ils ressemblent. Tu sais, mes pectoraux, quand je les entraîne, c'est Arnold.
Ouais.
Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, ouais.
Mes quadriceps que je les entraînais, c'était Gary Strydam. Donc, c'est ça, c'est cette image.
Ouais.
Tu vois? Donc je suis pas loin de, je suis encore loin de ça. Mais là, le fait de voir que, quand j'ai fait ce combat, que c'était pour prouver à moi-même que malgré les douleurs et l'âge, que je pouvais encore faire quelque chose de bien, je savais que j'allais le faire parce que je connaissais mon caractère. Parce que souvent, les combats qui ne sont pas réussis.
Je suis d'accord avec toi.
Combats qui ne sont pas réussis. Et surtout, tu vois, c'est pour ça que je ne voulais pas surprendre les gens à poster, à montrer l'en débardeur ou à poster les photos que j'ai fait moi au début. Je ne veux pas de ça. Je ne veux pas que les gens gardent en tête. Moi, je sais à quoi je ressemblais. Mmh. Ça me suffit. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si je mets des photos, crois-moi que les gens, leur mâchoire va tomber par terre. Parce que je suis loin, 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 loin. De ce que j'ai fait en 19 semaines, ça encore, c'est plus qu'un miracle.
Tu vois ce que je veux dire? Après, ceux qui connaissent un petit peu les vrais, les experts, etc., peuvent le voir juste en voyant l'avant-bras ou le visage un petit peu. Tu peux voir l'état de la transformation. La grosse différence.
C'était horrible pour moi, comme j'ai dit à Eric, parce que la lumière dans ma salle n'est pas terrible. Tu vois, ça te fait toujours lisse. On dirait une peau de bébé. On dirait que tu retiens 50 litres de flotte.
Ouais.
Tu vois, entre ce que tu vois et ce que tu filmes, c'est pas la même chose. C'est pour ça, souvent, quand les mecs me filmaient et se rapprochaient, par exemple, de la fibre, j'ai dit non. Parce que toi, tu penses que ça va refléter. Ça va être encore pire. Filmez-moi de loin.
Ouais. Surtout maintenant, les caméras des téléphones, elles ont tendance à aplatir énormément.
Absolument, c'était juste horrible pour moi, et c'est pour ça, même le jour de la compétition, j'essayais de faire des photos toute la journée, rien. Regarde les deux photos que j'ai postées, je ne sais pas si tu as vu la photo que j'ai postée hier.
Si oui, avec des contrastes noirs de dos là.
La photo de dos, ouais. Et j'ai posté hier soir une photo de triceps,
oui.
De mon photoshoot de samedi. Et quand tu regardes...
Ah ben là, c'est pas le même grain du tout là.
Et quand tu regardes la vidéo de la compétition... On est tous dégueulasses, parce que non seulement la lumière de scène, parce que ce sport, c'est une question de lumière. Tu vois, c'est une question d'être prêt. C'est pour ça que je ne vais pas montrer mon corps qui n'est pas fini. Si on se programme sur 16 semaines pour monter sur scène ce jour-là, c'est qu'on a tout fait pour que le corps soit présentable.
Oui.
Là, la lumière n'est pas terrible. En plus, les mecs, ils te mettent un rideau blanc avec de lumière rouge. Sur un corps tanné, eh ben, tu vois rien. C'est lisse, il y a pas tout ça 8 semaines.
Les lumières chaudes, en plus, ça a tendance à complètement t'aplatir. Il faut des lumières plutôt froides pour le physique, quoi.
Donc, le photoshoot que j'ai fait samedi dernier, c'est le meilleur photoshoot de toute ma vie parce que non seulement je suis resté au régime strict de la compétition, chose qu'il fallait, que c'était très dur de faire, c'est pour la cause terminée. Bon, là, je voulais absolument ce photoshoot. Donc, le faire avec un photographe professionnel, les belles lumières et dans ma salle et de voir surtout mon corps, là je peux dire que ma motivation elle est au sommet. Si j'ai réussi à faire ça avec des articulations en carton, qu'est-ce que ça va donner pour la prochaine?
Et surtout aussi rapidement. Moi c'est surtout ça que je vois, parce que je pense que, enfin moi je le dis honnêtement, moi tu m'as bluffé quand t'as enlevé le quand t'as commencé à un peu te dessaper. Dans les vidéos de la fin que j'ai vues, même on commençait à voir dès que t'as commencé à mettre un débardeur sur l'entraînement des bras et tout, je me suis dit ouf, ça change là déjà. Mais je pense qu'il y en a beaucoup que t'as dû bluffer. Il y en a qui devaient pas y croire, ils devaient se dire bon, il va faire ce qui est en 19 semaines, non c'est pas possible.
Mais je pense que t'en as. Vas-y, s'il te plaît.
Ouais, je pense que t'en as bluffé beaucoup et c'est vrai que 19 semaines c'est court. C'est quoi la suite quoi? Qu'est-ce qui là c'est pour toi c'était dans le starter quoi.
Dis-toi déjà que je démarre ma préparation après le ramadan.
Oui.
Où je perds 10 kilos.
Ouais. Et puis désynchroniser.
Oui. Donc, juste après le ramadan, déjà, c'était pas les meilleurs, la meilleure période de démarrer une préparation. Déjà, on était déjà en déficit calorique. Donc, le fait d'avoir commencé aussi l'entraînement beaucoup plus sérieux, la diète, les produits chimiques, le mont passé de toutes ces années où je me suis entraîné dur, donc tout se mettait en place, j'étais monté un petit peu, et après j'ai perdu 13 kilos. Mmh. Donc là, le fait d'avoir les photos et de voir mon corps exactement comme il est à 44 ans. J'avais très peur, surtout, tu sais quoi, Théo, de la qualité de la peau.
Mmh. Ah, mais on le sent des fois dans ton discours où tu disais j'ai la tête complètement déchirée, mais il n'y a que ça qui l'est. On sentait ouais. que tu n'étais pas encore satisfait de ce qu'il y avait au niveau du build et tout.
Je n'étais pas satisfait.
Voilà. Et donc, ouais, je peux comprendre. Ouais.
Donc, la qualité de la peau, donc ça, je suis très content parce que la peau, on dirait une peau de bébé, ça n'a pas changé, surtout au niveau abdominal, au niveau fessier, au niveau bas des pecs.
Et d'ailleurs, tes pecs, ils sont restés bien. Tu sais, des fois, quand il y a des comebacks ou même, on va dire, après 40 ans, etc., les pecs, ils ont tendance à, chez les athlètes, c'est plus que c'était. C'est plus.
J'en ai même moi, d'ailleurs, c'est marrant, Stéphane Machovic, hein, qui devait faire d'ailleurs une compétition en Californie le même jour que j'ai fait la mienne. Et bon, il a abandonné, il n'a plus vraiment la tête dedans et qui m'avait dit, ça, c'est marrant, il y a un truc bizarre qui se passe sur mes pectoraux que je ne comprends pas. Pourquoi? En me disant ça, j'avais tout de suite compris. J'ai dit, écoute, fais-moi des photos et on voit les mois. Quand tu m'as envoyé la photo avec, c'est la pose plus musclée debout, lui qui avait vraiment une sacrée cage thoracique, vraiment une bonne masse au niveau des pectoraux, il a perdu de la densité au niveau des pecs. Donc, la peau sur la partie inférieure est relâchée parce qu'il n'y a plus de densité qui pousse sur la peau. Et ça arrive souvent, effectivement, chez les athlètes. Tu vois, surtout quand ils font un dorsal de face, eh ben, tu vois qu'au niveau du mamelon, ça, c'est relâché. Et comme en plus, on a une molécule qui s'appelle l'estrone autour du téton qui est un dérivé des estrogènes, beaucoup plus facile. C'est pour ça que souvent chez les jeunes, on a tendance à faire du gras facilement sur la partie inférieure des pectoraux. Bah, ça donne ça. Donc, j'étais vraiment très content, sachant que les pectoraux, ça a été un point faible à mes débuts et que je les ai vraiment travaillé très, 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 très dur et que malgré que je ne fais plus de coucher lourd ou tout ce qui est mouvement de base très lourd, j'ai réussi vraiment à faire revenir une certaine densité. Mais maintenant, l'objectif, c'est clair que par rapport à mon corps, c'est de faire revenir ma densité. Donc, je vais essayer de travailler encore un peu plus lourd, toujours dans la même philosophie, bien exécuté, utiliser de la pré-fatigue et tout ça. Depuis un petit moment, je ne sais pas si le fait que je suis content, me mettre en préparation sur mon haut du corps, tout est calme. Mon épaule droite, on le voit d'ailleurs quand je fais les élévations latérales, j'ai un bras qui est beaucoup plus qui monte beaucoup plus que l'autre. Donc ça, pareil, j'essaie de jouer autour. La chose où je suis vraiment très content et très pessimiste et de très positif, j'ai eu mon premier rendez-vous avec le médecin lundi pour mes genoux.
La PRP, non, c'est ça?
Oui, voilà, pour mon PRP. Et le médecin, ça s'est super bien passé, un mec super content, on a beaucoup rigolé. Donc, on a fait une échographie du genou, parce que les gens pensent que c'est juste j'ai eu une opération un an auparavant sur le genou droit, mais c'est les deux qui me font mal. Donc, quand on a fait l'échographie, c'est pas bon du tout. Donc, j'ai une grosse tendinite sur les deux genoux, en fait, au niveau du quadriceps, du tendon de quadriceps. Et rien quand je pose mes mains au-dessus des genoux, je sens que c'est granuleux. C'est ce que je veux dire au niveau des tendons. Mmh. Et ça me fait rien qu'au toucher. Donc, c'est clair, le fait d'être sec.
Ça n'a pas arrangé, ouais. D'être déshydraté, etc. Ouais.
Cardio. Le fait d'être trop sec. De ne plus avoir d'eau autour de mes articulations, d'avoir une diète sur les quatre dernières semaines complètement pauvre en gras, et de prendre des anti-œstrogènes.
Ouais, donc le combo. Voilà,
c'est le désert. Ouais. Donc, grosse tendinite du deux côtés. Mon genou droit, je n'ai plus de stabilité sur l'intérieur. Mon genou il bouge. Mon genou gauche, je n'ai plus de stabilité sur le côté externe.
D'accord.
Qui a montré, en fait, ce que tu sais, l'articulation du genou, c'est comme ça. Mmh. Moi, je suis comme ça.
D'accord.
Parce que j'ai le ménisque qui est sorti après de l'os, sur le genou. Et le ménisque au niveau jambe gauche, j'ai une grande déchirure au milieu.
D'accord.
Voilà, donc la totale. Donc, quand on a fait ça, le Medimus, donne-moi 3 mois. Je vais te remettre en place et crois-moi, tu n'auras jamais besoin d'un knee replacement.
De quoi? De prothèse, non, c'est ça?
Voilà, prothèse.
Ouais.
Des prothèses. Et en fait, ce qu'il va utiliser, là, j'ai ma première injection qui est le 28 dans 2 semaines. Ils utilisent le PRP. Donc, le PRP, il prend ton sang, il le spin, il t'enlève les plaquettes et tout ça. Mais par contre, ils vont utiliser, alors, je ne connais pas le nom, tu sais, quand la femme est enceinte.
Ah, le placenta, non,
Non.
le liquide
Amniotique, un truc.
amniotique, ouais.
Voilà. Donc, il va utiliser ce produit-là parce qu'il est rempli de growth factor. Voilà. Donc, mixer les deux. Il a injecté, c'est ça qui te permet de faire du cartilage et apporter une grosse régénération faite au niveau des articulations. Donc, il m'a dit ça, on va le faire minimum 3 fois, voire peut-être plus. Je suis tombé de haut quand j'ai appris le prix. Ça va me coûter entre 5 000 à 6 000 dollars. En plus, pas d'assurance, rien. C'est tout de ma poche. Mais écoute, je suis content et optimiste. Je sais que ça va marcher.
Ben
ça
oui,
va marcher.
Oui.
Donc ça, étape par étape. Ça, c'est le premier objectif. Je continue vraiment à m'entraîner et à suivre une alimentation très, très propre. Depuis la compétition, je suis toujours nickel. Je mange, là, je suis à 110 kilos, 102, 103. Partir en vacances le 21 décembre pour 2 semaines. Arrêt total. Vraiment passer du temps avec ma famille, avec mes filles et revenir. Et là, c'est parti. Car mon objectif maintenant, c'est fin juillet, faire les USA à Las Vegas. Les USA, en fait, c'est l'équivalent du championnat du monde. C'est ce qui te permet d'être professionnel. C'est le sommet du sommet. Je n'ai rien à serrer de la carte professionnelle. Ce que je veux, c'est le prestige encore, c'est de faire les USA. J'ai eu la chance de faire, comme je disais, la WABA au niveau international, de faire l'ANABA au niveau international, de faire IFBB Monde au niveau international et de faire ce qui se fait au mieux au niveau NPC. Ça, c'est mon objectif. Et avoir un gros objectif comme ça et enfin me battre avec des gens de mon niveau. Ça, je pense que ça va changer la donne. Donc, j'ai 8 semaines pour relever. Ça, maintenant, je considère ça, c'est mon vrai comeback.
D'accord.
Parce que j'ai du boulot. Il faut que je redonne du galbe à mes cuisses, rajoute de la densité sur tout mon corps et surtout garder ma ligne. Ça ne va pas changer.
Moi, j'ai vu quand même que sur tes... Bon, après, j'ai pas beaucoup de photos. J'ai pas vu beaucoup de photos de toi avant. Mais là où j'ai vu qu'il y avait eu un boulot sur tes adducteurs de dos, on voit beaucoup tes adducteurs de dos. Tu as vraiment mis l'accent sur le travail des adducteurs.
Alors, tu as écouté déjà un petit peu sur mes anciens interviews, comme j'ai toujours dit. Mes cuisses, ça a toujours été un enfer pour moi. Première chose, à cause de mon hernie discale. Donc, comme je disais, pendant 8 ans, il n'y avait pas de squat ni rien. La salle où je m'entraînais, on avait, tu sais, un vieux hack squat de chez Panatta. Ouais. Il te flingue les genoux déjà. Et on avait, tu sais, le leg extension, il est curl, Panatta, sur la même machine, plat, comme à l'époque d'Arnold. Ouais. Et une machine adducteur, c'est tout. Donc, et par ma génétique, je n'ai pas ce fameux sweep partie externe qui est galbé. Je ne l'ai pas. Donc, c'est plutôt plat. Donc, ce que j'ai compris, je dis, OK, je ne peux pas faire grand chose au niveau génétique sur la partie externe, mais pour donner de l'épaisseur à ma cuisse, je peux travailler, me concentrer beaucoup sur les adducteurs. Chose qu'on faisait pas à l'époque. Rappelle-toi, aucun homme ne se mettait sur la machine adducteur.
Oui, oui.
Oh, c'est une machine à femelle. Tu vois ce que je veux dire?
Oui.
Personne ne faisait ça. Donc, je me suis beaucoup, beaucoup concentré sur ça et j'ai tout de suite compris aussi l'importance des poses de profil. Quand ton adducteur est bien charnu, bien rempli, quand tu mets cuisse sur cuisse, l'adducteur
pousse, ouais,
a poussé les chiots sur le côté. Et ça, c'est une de mes poses où je suis fort, car j'arrive à sortir le galbe de les chiots à cause des adducteurs.
Parce que ce que tu dis par rapport à ton, on va dire, ton problème de genou et donc du coup plus de mal de face sur les quadris, dès que t'es de profil, t'éclates tout le monde. Hein.
De profil?
Ah oui, on voit rien en fait. Il y a aucun déséquilibre de profil.
Et j'ai tout fait parce que si j'ai la jambe droite qui est un tout petit peu plus petite maintenant. C'est là où j'ai eu mon opération. Mais bon, voilà, tu sais, quand tu es un professionnel, il faut savoir poser, cacher ses faiblesses, montrer ses points forts.
Ouais.
Et ça, c'est un métier aussi. Hein.
Et oui, oui. Comme Arnold faisait.
Sur mes poses de dos, quand je croise les jambes, c'est pas facile au niveau équilibre, mais le rendu est magnifique. Sur ça de X.
Ouais.
C'est ce que je veux dire. Après, t'as bien vu les mollets, pareil, c'est un truc qui m'a agacé les gens, tes mollets. Est-ce que j'ai besoin de vous pour me dire que mes mollets, c'est un point faible? Mais j'ai tout fait. C'est pour ça que j'avais dit une fois, si j'avais une génétique favorable au niveau des mollets, le travail et l'acharnement que j'ai fait, je serais rentré dans le livre des records. C'est déjà énorme ce que j'ai par rapport en démarrant de rien. Tu vois ce que je veux dire? Et en plus, c'était un point faible. J'ai arrêté les mollets pendant les 5 ans. Les deux muscles que j'arrêtais vraiment d'entraîner, c'était les mollets. Et c'était les abdominaux. T'avais les abdominaux que j'ai?
Oui, pas de problème.
C'est exceptionnel. Cette fois-ci, c'est 19 semaines par rapport à mes 20 ans. Parce qu'encore, je viens de l'école du Nubré, on m'a appris que les abdominaux, c'était 1 heure par jour. J'ai fait ça. Mais avec le temps et mon savoir, J'ai tout de suite vu que c'était juste ridicule de faire une heure d'abdominaux parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de cardio. Faire une heure d'abdos.
En fait, ils faisaient leur cardio sous forme d'abdos, quoi.
Bien sûr. Tu vois, donc, tout de suite, je me suis dit, OK, sorti de la semaine, je vais faire ça. Je vais faire les abdominaux un jour sur deux. Voilà. Faire mes relevés de jambes, quatre séries, le plus que je peux. Les crunchs, c'est vraiment moi les deux mouvements de base des abdominaux, pas les clowneries, les choses par-ci. Et voir ce que ça donne. Revenir au fameux bâton pour la taille. Et mes abdominaux, ils sont là parce qu'il y a de la mémoire musculaire. Et surtout que je les ai travaillés très dur pendant 20 ans. Et mes mollets, bon, pareil. Dès que je me suis mis à les faire trois fois par semaine, eh ben, ma génétique est revenue.
Ouais, mais les mollets, après, de toute façon, les mollets, y en a beaucoup qui passent à côté quand ils pensent que ça viendra jamais, ils arrêtent de les entraîner. T'as un exemple comme quoi, si c'était un point faible, on peut quand même les développer, quoi.
Non, mais surtout si c'est des gens, je ne sais pas, c'est des gens qui essayent de te donner des conseils alors qu'ils n'ont jamais rien fait de leur vie ou ils sont juste là à critiquer, à montrer des doigts. Hé, les mecs, je suis un perfectionniste, je sais exactement mon corps, comment il est, mes points faibles, mes points forts. Je suis très sûr, tu sais quoi? Pour te dire, je suis tellement taré que quand j'ai un point faible, je ne dors pas la nuit. Tu vois, à quel point j'y vais, je ne dors pas, je cogite, comment faire pour le faire grossir, par quels moyens, parce que je suis un puriste, parce que je suis un amoureux de ce sport, c'est toujours OK, quelle méthode d'entraînement je vais adapter, et pas quelle piqûre ou quel produit je vais mettre dedans pour qu'il grossisse. Ouais. Tu vois, ça, c'est la différence entre moi et les autres. Quand je fais un exercice différent, ben je me dis, ça va être la clé. Quand je fais une série en plus, ça va être la clé. Quand je fais un exercice en plus, ça va être la clé. Tu vois? C'est ça la différence. Donc je suis très conscient de tout ça. J'accepte effectivement les conseils, mais après je pense 25 ans, croyez-moi que je connais mon corps parfaitement et je sais exactement ce qu'il faut que je fasse. Et...
En fait, les conseils, je pense que avec l'expérience, c'est toi qui vas les demander après. T'as pas besoin qu'on vienne te solliciter comme ça, te dire tiens tu devrais. C'est toi qui, quand tu sens que t'as besoin du conseil de quelqu'un, tu l'appelles ou tu vois, même des fois, ne serait-ce que voir une vidéo d'entraînement, tu sais déjà, tu vois le mouvement de la personne, tu te dis ah ça, je pense qu'avec ma génétique ça va marcher. Ou alors au contraire, si j'essaye, je sais tout de suite que ça, par exemple, ça va me faire mal. Et je pense que ça, c'est l'expérience, quoi.
Bien sûr, et comme je leur ai dit, notre corps est unique. Chacun doit trouver ce qui lui convient. On ne coupe pas le programme d'Arnold et on devient Arnold. On ne coupe pas le programme de Ronnie, on devient Ronnie Coleman. Tu vois, je veux dire, chez chacun. Et tu vois, regarde, Jamo. Tu connais Jamo? Qui est très proche d'Orien. Il l'avait dit sur une de ses podcasts. Il a dit, voilà, j'ai essayé de m'entraîner à la méthode d'Orien. J'ai pas pu. Toi, comment ça fait mal?
Ouais, il n'est pas fait pour.
Parce que la méthode Heavy Duty a été mise à la mode par Dorian et tout ça, que ça marchait sur lui, que ça marchait sur tout le monde. Non, il y a des gens, pareil, ce qu'il ne faut pas oublier, le premier facteur, c'est le facteur génétique. On est né avec une génétique. Il y a des gens, tu sais, la chose dans tous les sports, la chose la plus extraordinaire, c'est de trouver pour quel sport tu es fait. Ça, c'est un coup de chance. C'est pour ça que c'est très important d'essayer plusieurs sports quand tu es jeune. Ouais. Tu vois, et des gens, rien que tu les vois, les mecs qui n'ont jamais soulevé un poids, tu vois très bien, leur corps est fait pour faire des muscles. Ils peuvent soulever des cailloux et ils vont grossir. Ils peuvent manger 1 gramme de protéines par poids de corps ou 1 gramme de protéines dans la journée et ils vont grossir. C'est bien. Donc ce n'est pas juste une question. Il y a plusieurs facteurs, la génétique, les récepteurs, le squelette, sa façon de récupérer, les quantités d'aliments qu'on peut absorber et surtout les assimiler.
Ça, mais c'est important,
Non, mais quand c'est ce genre de choses, les gens, ils attendent la pilule magique.
Ouais. Et puis le mental aussi, qui reste quand même une clé. Mais c'est vrai que le champion, c'est vrai que si on veut être champion, il faut cumuler mental, résistance aux blessures, capacité digestive, enfin, toutes ces choses-là, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de champions, qui durent très longtemps. Et qu'il y a beaucoup de gens qui se cassent les dents aussi, parce que à miser, à vouloir copier, comme tu dis, des entraînements extrêmement lourds, etc., parce que le Ronnie le fait ou Dorian Yates le fait, si on n'est pas prévu pour ça à la base, personne n'est prévu pour, mais si on n'est pas capable de l'encaisser, puis même si Ronnie était capable de l'encaisser, aujourd'hui, malheureusement, je crois qu'il est à combien, 10e opération?
10e, oui.
Ouais. Il y a d'ailleurs un bon reportage là sur Netflix.
Ouais, de Ronnie Coleman, The King. Ouais. Tu sais, tu as ouvert la parenthèse sur ça. C'est juste encore par rapport aux gens. Arrêtez de souffrir pour lui. Arrêtez de dire le pauvre, ceci, cela. Le mec, lui, il assume très bien. Il l'assume très bien. Donc, à partir du moment où il l'assume, tu sais, il a été 8 fois Mister Olympia. Il a été au sommet de la montagne 8 ans. D'accord? Donc, il y a un prix à payer. C'est clair qu'il y a eu des choses pas intelligentes. René, en fait, au jour d'aujourd'hui, on va dire que c'est comme un drogué. Il y a des gens qui sont au manque de drogue, d'alcool. Lui, c'est la fente.
Mais on le voit, il va avec son déambulateur jusqu'à la salle.
Ça, c'est complètement stupide. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il faut quelqu'un qui va chez lui, qui frappe à sa porte, qui lui dit « René, arrête d'aller à la salle te détruit aujourd'hui. Trouve-toi d'autres occupations, fais de la natation, fais du golf, fais autre chose, mais ne va plus à la salle parce que tu n'as plus rien à prouver. » Tu vois, parce qu'à chaque fois, tu fais une opération, tu retournes à la salle faire du leg press qui t'a rendu entre guillemets comme ça, c'est que tu n'as pas compris. Mais il ne sait pas faire autre chose. Tu vois ce que je veux dire? En plus, voilà, au niveau business, il est vraiment bien. Tu sais, la chose qui me fait encore le plus mal maintenant, c'est ce qu'il fait maintenant. Toutes ces pilules qu'il est en train de prendre. On lui a posé la question, sur une échelle de 0 à 10, au niveau de ta douleur, il dit 12. Et prendre tous ces antidouleurs, on parlera d'ici 3 ans, 4 ans. Ça, ouais. Ça va le faire.
Au niveau des reins.
Mais oui, parce que tout ce qu'il a pris dans sa carrière, où il a eu de la chance de ne pas avoir de séquelles, là, parce que la majorité des athlètes, c'est à la fin de leur carrière qu'ils commencent à avoir des blessures et essayer de les masquer avec les antidouleurs
qui flinguent.
Les antidouleurs, ulcères, les reins, c'est terminé. Mais en tout cas, non. Le mec, il assume, il est heureux, il souffre. Mais au moins, tu sais, il a marqué son temps.
Mais il le dit, hein. Il a dit, grâce à ce sport, je me suis payé ma maison. L'année d'après, j'ai payé la maison à ma mère. Mais je pense que la fonte, ça lui a apporté son bonheur dans la vie et qu'il a du mal aujourd'hui à fermer la porte, quoi.
Rappelle-toi, à la base, il a commencé à faire des compétitions juste pour pouvoir garder son abonnement qui a été donné gratuit par Brian. Tu vois? Donc voilà, c'est encore super. Hein. C'est les gens souvent qui parlent. Non, Ronnie Coleman, on va se rappeler toujours du Ronnie Coleman qu'il était. Et que personne, je peux le dire aujourd'hui, ne pourra l'égaler.
Oui.
C'est vous, de cette masse monstrueuse, de cette génétique, de cette définition.
Il a été. De la régularité, de tout. Il était. Moi, il m'a toujours inspiré depuis que j'ai démarré. D'ailleurs, quand j'ai démarré la musculation, c'était lui. Pour les Mister Olympia, je me souviens, il y avait Gunther.
Oui.
L'allemand, c'est ça, il était allemand.
Oui, Gunther, c'est qu'il avait battu d'ailleurs sur un grand prix.
Cutler. Dexter Jackson et Coleman, c'était les top stars du bodybuilding. Et il y avait que ça, il y avait pas de fitness, il y avait pas tout ce qu'on voit aujourd'hui. C'était si tu voulais faire de la muscu, t'avais Pumping Iron à regarder et puis Cost of Redemption, les trucs de
premier.
J'ai dû les voir, je sais pas, peut-être une trentaine de fois ces vidéos chacune, où je le voyais faire son cardio après manger des frites avec du ketchup dessus. Je me disais, c'est quoi ce type? Énorme, j'hallucinais, quoi.
Mais tu sais quoi? Tu sais, quand il est passé professionnel, il est passé professionnel naturel. On n'y croit pas.
D'accord.
Ça te donne juste ce que c'est, ce mec-là, au niveau génétique. C'est ça, ce qu'on appelle un monstre génétique. Voilà. Parce que si t'es le seul qui était parti en Europe faire le championnat du monde à IMV avec un contrôle antidopage, il a passé le contrôle.
D'accord.
Voilà. Quand Chad Nichols a commencé à travailler avec lui, il lui a dit, envoie-moi ton programme, ce que tu fais. Il a dit, qu'on m'a envoyé. Je dis, non, Ronnie, envoie-moi ton programme, ce que tu fais comme produit. Il y avait quelques petits suppléments, oméga 3, vitamine C, machin. Il a dit, non, je sais pas ce que c'est, j'ai jamais rien pris. Et quand Chad Nichols a vu ça, il a dit à sa femme, qui était 3 fois Miss Olympia, oulala, je crois que je suis tombé sur la perle rare. On va en parler de ce mec-là. J'ai écouté l'interview il y a pas longtemps d'ailleurs de Chad Nichols qui parlait de ça.
Génial.
Et regarde, au stress, par rapport à ce qu'il dit, Lévron, comment le vodka a pu le déshydrater pour être beaucoup plus sec.
Et ça, j'adore les anecdotes comme ça, moi. C'est le côté, ça l'a un peu déstressé, puis là, ça a tiré l'eau un petit peu aussi, donc comment ils appellent ça?
Mais tu sais, comme tu disais au début, maintenant, le fait de comprendre l'anglais, et tu sais, je passe mon temps à regarder vraiment des podcasts très intercoms. Souvent, Génération Iron, ils font des trucs sympas. Dave Colombo sur Xmas, ils font des trucs bien. Joe Cutler sur sa chaîne. Et c'est Rick Darson, qui était à l'époque d'Arnold, tout ça. Et c'est juste énorme d'apprendre effectivement des anecdotes, des choses du Golden Era et tout. Je suis vraiment content de ça. Enfin, je peux comprendre les côtés des séminaires et tout. Et t'apprends tellement de choses.
Eh oui. J'avais juste une question parce que par rapport à la récupération, je pense que ça, c'est important. Les gens, tu sais, ils aiment bien savoir les compléments alimentaires, etc. Moi, j'avais dit, est-ce que tu peux nous faire un petit stack de récupération en termes de compléments alimentaires? Même tu peux dire hein, ce qui se trouve aux États-Unis qu'on trouve pas forcément en France, parce que maintenant, on trouve quasiment tout hein, avec Internet. Ouais. Parce que aujourd'hui, on parle trop, si tu veux, de tout ce qui est compléments alimentaires, on va dire prot, BCA, créatine, toutes ces choses-là. Mais en termes de récupération, qu'est-ce qui, ces dernières années, pour toi, hein, t'as trouvé vraiment utile? Et qu'est-ce que tu utilises, quoi, si c'est pas trop indiscret?
Non, pas du tout. Première chose, il ne faut pas confondre alimentation et supplémentation. Supplémentation, ça reste juste du supplément. Donc, n'allez pas gaspiller votre budget en achetant plus de suppléments que d'acheter de la nourriture. Voilà, ça après les gens veulent le comprendre ou y croire ou pas y croire. Moi, je reste vraiment très restreint aux basics. Voilà, j'essaie de mettre mon argent beaucoup plus dans une bonne qualité de bœuf, une bonne qualité de saumon, une bonne qualité d'œuf et tout ça. Ça c'est la récupération. Parce que ça, c'est une chose. Et la récupération, c'est comment tu dors, comment tu récupères, tu prends soin de ton corps. Au niveau supplémentation, donc avec le temps... Bon, j'ai remarqué, par exemple, on va commencer un petit peu depuis le début, du fameux pré-workout.
Ouais.
Pré-workout, les gens sont devenus drogués à ça. Pré-workout, ma science va pas être réussie. Il faut que je tombe sur qu'est-ce qui se fait du mieux dans le marché. Celui-là où il y a 500, 600 mg de caféine.
C'est des camés, ouais.
Ben oui, mais c'est des camés. Mais le problème, c'est que les gens ne savent pas que trop de stimulants, ça limite vos progrès, ça limite votre croissance musculaire, et ça vous rend débile, ça joue énormément sur les adrénales. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je leur dis, genre, quand t'achètes ton pré-workout, si ton pré-workout tu le gardes pas pendant 3-4 mois, t'as un problème. Parce qu'un pré-workout n'est pas fait pour être pris tous les jours. Il est fait pris juste quand tu sens, j'ai besoin d'un petit coup de fouet. Ouais. Ça peut être sur une séance de jambes, ça peut être sur une séance de dos. Je ne prends plus ce genre de choses, même pendant ma préparation, si j'avais pris un petit peu de fat burner, mais j'ai vu dans quel état mental ça me met, je ne veux plus toucher de ça à vie.
Surtout que ça a tendance à resserrer un peu tout le système veineux, donc avec la caféine, là, tu sais, c'est un peu trop vasoconstricteur, donc c'est pas forcément ce qu'on cherche à l'entraînement, quoi.
Mais surtout par rapport à mon âge aussi, que c'est le palpitant. Ouais. Et tu sais, moi, c'est ce comportement animal, je n'aime pas ça. Mm-hmm. Tu sais, je dis souvent, on dirait un lion dans une cage. Tu vois ce que je veux dire? Je n'aime pas ça. J'ai du mal à me concentrer. Le moindre petit truc me fait juste péter les plombs. Donc, avec la compagnie avec qui sont mon sponsor et avec qui je travaille, qui sont Apollon Nutrition, aussi une marque de compléments alimentaires. C'est pas parce que juste c'est mon partenaire et c'est mon sponsor. Robert, c'est juste un amoureux de ce sport, un amoureux de la qualité. Tous les ingrédients qu'il met dans ses suppléments, c'est des ingrédients pharmaceutiques. La protéine qu'ils font, c'est 50-50, 50 isolate, 50 caséine. Il y a un an, ils étaient au niveau de la qualité top 4 au monde. Déjà, quand tu la vois, c'est juste un truc de malade. Les BCA qu'ils utilisent, c'est pareil. Parce que tu sais, les BCA, il y a deux sortes. Soit les BCA qui ont été faites par les cheveux de chien d'être humain.
Ouais. Les plumes. Ou,
voilà. Sinon, c'est cultivé. Et ça coûte beaucoup plus cher. Ouais. Donc, c'est pour ça que souvent je dis aux gens, n'allez pas acheter juste un pot de BCA parce que ça coûte $15 ou 15 euros. Non. Faire ses recherches et trouver, voilà, les vrais ingrédients à l'intérieur. Je n'ai pas juste, tu sais, qu'on a des petites étoiles. Il y a combien de citrulline? Il y a combien d'arginine? Il y a combien de ceci, de cela? Il faut que ça soit transparent. Et Robert est vraiment transparent, là-dessus. Déjà, pendant mon entraînement, moi, je suis un grand, croyant au, qu'est-ce qui se passe pour l'entraînement? L'entraînement, on casse la fibre musculaire. On la déchire dans tous les sens. On récupère, on mange, on fait ce qu'il faut. Elle se reconstruit en plus gros. Ça, c'est l'explication la plus simple, sans rentrer dans les termes scientifiques et les choses qui compliquent les choses aux gens. Mais pour moi, OK, le fait que pendant cette période-là, on est en train de travailler les pectoraux, on est en train de casser les fibres et tout ça, c'est très important d'avoir des aliments récupérateurs déjà prêt dans le sang pour pouvoir aider la récupération et l'anabolisme. Donc, c'est pour ça que je suis pour utiliser les BCA.
Durant la séance, directement.
Durant la séance. Surtout qu'aujourd'hui, tu sais, il y a quelques années, tu n'en trouvais pas en poudre. Il fallait en avaler des pilules et des pilules. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, quand même, il y a un gros, gros, gros travail sur le niveau du goût, au niveau de la qualité. Donc, le produit que j'utilise, c'est soit des fois Enigma de chez Apollon ou Chensa. Enigma, la seule différence, Enigma, en fait, ça a de la créatine dedans, des électrolytes, parce que c'est très bien quand tu transpires, tu perds minéraux, calcium, magnésium, tout ça. Donc, c'est très bien de se recharger en même temps. Il y a les BCA, on sait très bien la valine, l'isoleucine, l'inosine, les trois vraiment aminoacides les plus essentiels du corps. Et comme ça, en fait, tu casses et tu nourris en même temps. Tu détruis la fibre musculaire et tu nourris en même temps. Et tout dépend de la période dans laquelle je suis, j'utilise aussi des hydrates de carbone complexes.
D'accord.
Qui ont dit, ça peut être le Vitargo, ça peut être l'Oximès, je n'ai jamais vraiment... utilisé le Waximès parce qu'au niveau des études, ça n'a jamais été vraiment bien prouvé. Il y a un autre produit qui s'appelle Glustorbomb, qui est de la dextrine. Et ça aide encore beaucoup plus. Non seulement quand tu commences ton entraînement, souvent, ton énergie, Joyce, arrête de creuser sur la moquette. au niveau de l'entraînement, tu commences, tu as cette énergie et tout ça, mais au fur et à mesure, ça commence à chuter.
Ouais, tu décharges ton glycogène, quoi.
Voilà, le fait d'avoir en fait cette boisson à base d'hydrates et de BCA, des électrolytes, c'est que ton énergie reste toujours le même, tu n'as pas de chute, tu n'as pas un pic d'insuline qui va hop. Et ça permet surtout d'être une sorte de ventilateur pour emmener tous ces nutriments qui sont les acides aminés pour les faire vraiment rentrer dans la cellule musculaire. Déjà, tu vois, ma récupération a démarré déjà pendant ma séance. Et quand j'ai fini, une whey protéine avec de la glutamine, de la vitamine C, pareil, parce que je suis un très grand croyant en consommer vraiment une grosse quantité de la vitamine C, qui est le meilleur antioxydant qui peut exister. Les gens, souvent, ils ont peur de la vitamine C en disant, ah, bah, tu sais, souvent, les gens se demandent, ah, bah, je prends 500 mg. Ah, je prends un gramme.
Mais tu la pisses, de toute façon, si t'en as trop.
Exact. Ou sinon, tu sais quoi? Quand tu dépasses ton dosage, t'as la diarrhée.
Ouais.
C'est comme ça que tu sais aussi. Et tu sais, quand je fais les IV avec mon docteur, j'avais dit plus d'une fois, il met 50 grammes. Pas 50 grammes, 50 grammes, et mon corps juste l'absorbe. Et là, en plus, ça va encore beaucoup plus vite parce que c'est intraveineux.
C'est direct, ouais.
C'est direct. Donc, tu vois, et je me rappelle même à l'époque de Miloš Šarčev où il préconisait des grammes par jour. Tu vois, souvent pareil, les gens, oui, mais si je prends de la vitamine C le soir, je vais pas dormir. Non, au contraire, si tu prends de la vitamine
c'est
C,
relaxant,
tu vas...
ouais.
Bien,
ouais.
Sur relax, ça aide surtout la récupération au niveau du cerveau. Après, c'est qu'ils sont d'habitude. T'as des gens qui vont boire un litre de café avant d'aller se coucher, qui vont bien dormir, et d'autres, rien que sentir l'odeur, ils vont pas dormir.
Mais tu sais, à l'époque, c'était parce que souvent la vitamine C, je pense que ce côté, ils te vendaient beaucoup la vitamine C pour la vitalité et tout, mais ce que les gens voyaient pas, c'était que, par exemple, le Guronzan, les trucs comme ça en France, ils foutaient de la caféine, de la maltodextrine, donc forcément, t'avais un pic d'insuline associé à la caféine, ça t'empêchait de dormir, mais c'était pas que de la vitamine C, quoi. Ouais, mais la vitamine C pure, ça a plutôt un effet inverse, quoi. C'est plutôt, plutôt relaxant, hein.
Oui, et bien sûr, pareil, trouver de la bonne vitamine C que le corps va absorber, pas de vitamine C remplie de produits chimiques que de choses. Donc voilà, donc, je dis après l'entraînement, c'est ça, c'est de la whey, c'est glutamine, vitamine C et multivitamine. J'ai changé, au début je prends le multivitamine le matin, mais là je le prends après l'entraînement, pareil, parce qu'il y a un vidage qui se fait au niveau vitamines et minéraux, donc je me recharge, et comme le multivitamine que je prends, c'est celui de chez Hani Rambo,
Evogène, c'est quoi la marque, hein, déjà? Evogène, c'est sa marque?
Evogène. Ouais. Et celui-là qu'il a fait, en fait, il y a des facteurs anti-inflammatoires.
D'accord.
Comme le turmeric.
D'accord.
Le turmeric, c'est quoi en français?
Je connais pas le nom français, mais c'est quoi? Le curcuma, des choses comme ça?
Curcuma. Curcuma. Voilà. Donc, ça joue énormément sur l'inflammation. Donc ça, c'est une des raisons pourquoi je le prends après mon entraînement. Et en général, tu sais maintenant ce que je fais, pareil, ce que je fais après mon entraînement, j'avais déjà filmé, je prends de la whey, je prends des flocons d'avoine, je mets en poudre en fait encore plus de curcuma, tout ça avec, voilà, tu dis, bon, la période, je mélange ça avec soit du lait de coco, soit du lait d'amande, tu mélanges comme ça, en fait, c'est au frigo, je rajoute un petit peu de fruits congelés, c'est du fructose. Donc ça te recharge assez rapidement, et c'est mon repas récupération après l'entraînement.
D'accord. Bon, ben voilà. Merci pour les tuyaux. Avant de coucher, mélatonine, ZMA, des choses comme ça, non? Pour les nuits de sommeil?
Honnêtement, je crois pas trop à la mélatonine. Pour moi, la mélatonine, c'est bien, par exemple, quand tu voyages
Quand t'es
énormément, parce que
désynchronisé, ouais.
ça te permet de régler ton horloge interne. Mais je ne pense pas que si tu as des problèmes de sommeil en prenant 3 mg, c'est ça qui va faire la différence. Je n'y crois pas du tout. J'y crois beaucoup à la GABA, qui aide vraiment à se relaxer, surtout à sécréter un peu plus d'hormones de croissance naturelle. ZMA, c'est clair qu'en plus, avec l'âge, c'est très important
Ouais.
d'avoir un mot riche en zinc par rapport à ta production au niveau
Ouais.
de d'avoir la bonne équilibre entre calcium, magnésium, les oméga 3 le soir, bien sûr de la vitamine D. Il y a beaucoup de gens aussi qui ne savent
Ouais,
pas
qui en
l'importance
manque, ouais.
période noire, humide, froide. Donc s'il n'y a pas de vitamine D, il n'y a pas de fixation de calcium, et tu le vois d'ailleurs sur toutes les autres hormones en général.
Mais il commence, par exemple, en France, tu vois, il y avait beaucoup de problèmes par rapport au dosage, etc., en Europe, et en France particulièrement. Et là, ça y est, les médecins commencent à, même sans bilan sanguin, j'ai un ami là qui se fait opérer, donc quand tu te fais opérer, tu es obligé de passer un examen sanguin, etc., pour l'anesthésie et tout. Et il lui a dit, est-ce que je pourrais avoir mon dosage en vitamine D aussi, pour voir si je suis pas carencé? Et le médecin lui a dit, non, vous inquiétez pas, je vous en prescris parce qu'on en manque tous. Il a même pas cherché à comprendre, le médecin.
Ah, enfin, parce que je me rappelais à chaque fois mes clients en France, quand je leur mets en général, tu sais, tout dépend. Comme souvent, je travaille avec des analyses de sang, soit c'est dans les chaussettes, et là, je leur dis, OK, c'est 10 000 unités internationales, ou si tu te vois bien, c'est 5 000. Je dis, ah non, mais on peut pas en trouver, le médecin s'arrache les cheveux. Je dis, non, moi, je sais que j'en prends 10 000 par jour, que je vais en Oregon, parce que énormément de gens ici, ils ont un problème au niveau de la vitamine D. Ah,
Ouais.
ouais,
Et nous, on
de la vitamine
achète les gouttes pour bébé, là, le Zimadé. Enfin, c'est les. Ça coûte 2,50 € le flacon, et voilà. Enfin, c'est pas remboursé, mais bon. Ça va. Quand tu
Donc,
vois.
il y a des choses de base.
Ouais.
Voilà, voilà, de la glutamine, un bon multivitamine, une prot. Voilà, moi, ça s'arrête. Hein, un biberon, c'est une seule fois dans la journée après mon entraînement. Hein. C'est terminé. Je ne vais pas en prendre à tous les repas ou le remplacer par un repas. À part dans des cas très extrêmes, tu es dans ton travail, tu ne peux pas vraiment sortir ta gamelle et tout ça. Il vaut mieux prendre une bonne source de protéines, la ralentir avec du beurre de cacahuète ou des amandes, ou mettre même de l'huile de macadamia, par exemple, à l'intérieur pour ralentir la digestion.
C'est marrant, j'ai la même technique, tu vois, le fait de mettre des oléagineux en purée comme ça, cacahuète ou quoi, dans le shaker pour ralentir un petit peu
Bien
l'assimilation, tu vois.
sûr, même une whey qui est super
Ouais.
rapide, mais ça, tu vas la ralentir. Mais comme moi, je suis avec la 50-50, voilà, je le prends même après mon entraînement, parce que non seulement je le fais rapide de la isolate, et je le fais caséine, parce qu'en général, comme je finis mon entraînement en 1 h 30, je mange ça, mais après j'enchaîne sur 2 heures de cours, donc j'ai mon vrai repas qui arrive que 2 heures après. Donc c'est pour ça que je préfère aujourd'hui ce mélange de flocons d'avoine et tout ça pour que ça me reste un peu sur l'estomac, que de boire juste une protéine et qu'une demi-heure après, il y a rien qui arrive pour ma récupération et la construction musculaire.
Mais je suis d'accord avec toi que le solide, la bonne nourriture de bonne qualité, ça reste. Et moi, je l'ai vu. C'est un truc tout bête. J'ai remplacé ma collation liquide que j'avais après l'entraînement. Donc, c'était poudre d'avoine et de l'isolate classique. Je l'ai remplacé par un repas solide. En restant quasiment au même taux de gras, j'ai pris 3 kilos. Donc,
Ah oui.
juste avec de la vraie nourriture. Bon,
D'accord.
après, moi aussi, je peux me le permettre maintenant parce que j'ai travaillé pour pouvoir me le permettre. Je peux acheter tout bio. Donc quasiment toute mon alimentation est bio. Donc j'ai un budget course qui est plus important que pas mal de personnes, mais c'est une de mes priorités. Moi, j'ai pas de bouteille à
Je pars sur
90
le
euros dans les
principe.
boîtes de nuit et tout, quoi.
Absolument. Je pars sur le principe, quand tu es culturiste, on mange énormément. Donc 4, 5, 6 fois dans la journée. Et on mange toujours la même base. Si cette base est de mauvaise qualité, déjà, tu ne vas pas arriver au résultat que tu veux. Et en même temps, tu es en train de faire du mal à ton corps petit à petit. Petit à petit, si tu manges des œufs tous les jours, 5 ou 6 de mauvaise qualité, hey, si tu manges du bœuf mauvaise qualité, à la fin, tu vas le voir sur ta santé. Donc, c'est très important, ça, je dis aux gens, voilà, au lieu de penser plus à mettre votre budget encore dans les choses chimiques ou autre chose, c'est l'alimentation de base, vous voulez construire un corps, parce qu'il faut quand même être en bonne santé pour pouvoir s'entraîner, pour pouvoir faire du concours, pour pouvoir
Durée, quoi.
avancer. Bien sûr, pour pouvoir durer.
Ouais.
Donc le choix des aliments, c'est très très important. Et encore plus ici pour nous aux États-Unis, parce que tu as des hormones de partout. Et dès
Ouais.
que tu commences à manger organique, bio, c'est clair que je peux dire qu'au niveau budget, tu le sens. Tu le
Ouais.
sens. Et ça va très vite. Et tu, même au niveau de la qualité, tu le vois. Quand tu achètes une viande qui a été nourrie à l'herbe et une autre qui a été nourrie à je ne sais quoi, tu sais que c'est pas la même chose. Ouais. C'est pas la même chose. Mais voilà, on peut, l'alimentation, c'est vraiment la clé.
Mais c'est ce que les gens maîtrisent le moins. C'est là où ils se trouvent beaucoup d'excuses aussi. Bon, l'entraînement, mais on voit plus de gens à la salle que de gens faire attention à leur diète quand même. Hein. Moi, je le vois autour de moi. Beaucoup de personnes qui s'entraînent depuis des années et au bout de quelques années, enfin, moi maintenant, je me rends compte, je vois quand quelqu'un fait la diète ou pas. Il n'a pas besoin de me dire je fais la diète si je le vois, s'il le fait pas. Ça se voit sur la qualité de
peau. On ressemble à ce qu'on mange.
C'est ça.
C'est vrai.
C'est un équilibre entre tout avec l'entraînement, mais la nutrition, elle est mal comprise. Il y a beaucoup de personnes en plus qui induisent en erreur, qui disent que quand on est en prise de masse, on peut manger un peu ce qu'on veut. Souvent, c'est des gens qui prennent du poids, ils prennent pas du poids, en fait. Ils y arrivent pas. Donc, ils sont obligés de passer par des phases extrêmes pour grossir. Mais bon, moi, qui suis ancien, avant, j'étais gros. Si je m'amuse à manger des hydrates trop régulièrement, en fin de journée, etc., en grosse quantité, j'ai beau m'entraîner, je vais faire de la merde. Je le sais.
Comme tu l'as dit au début de ma préparation, beaucoup de gens m'avaient surpris. Comment ça se fait que je suis à 113 kilos et que je prends que 300 grammes d'hydrates?
Eh ben, parce que tu les encaisses pas.
Et qu'à la fin, j'ai montré, j'ai un test d'ADN. Je savais déjà par mes connaissances et mon passé. Et j'ai fait pousser la chose par le côté scientifique qui m'a montré le fameux coup de tampon que tu disais, qui m'a confirmé, oui, mon corps est très sensible aux hydrates. Mmh. Je dépasse 300 grammes, alors qu'en général, hors saison, j'ai toujours été entre 120 et 125. Et dès que j'ai dépassé 300 grammes, ça y est, c'est rempli de flotte.
Ouais.
Pourtant, 300 grammes, c'est rien. Il y a des gens qui tournent à 800 grammes au plat préparation. Et les gens ne comprennent pas ça parce que je ne sais pas qui c'est qui leur a dit qu'il fallait tourner à 800 grammes ou 800 grammes ou un kilo d'hydrates par jour.
Ouais, ils veulent des formules universelles, les gens.
Mais oui, il y a des gens qui peuvent se permettre effectivement. Le mot qui m'énerve le plus, le repas triché, n'est pas donné à tout le monde. À l'époque, il y a 20 ans en arrière, quand on entend des repas trichés, ça veut dire au lieu de manger 200 grammes de riz, eh ben on va rajouter 300 grammes, 400 grammes, tu vois. Et c'était ça. Aujourd'hui, non, tu commences avec des clients et tout de suite, oui, quand est-ce que tu vas me donner mon repas triché? Mais on n'a même pas encore démarré. Il y a des gens qui peuvent, il y a des gens qui peuvent pas. Il y a des gens qui ont une génétique assez chétif, qui ont un métabolisme qui est en feu et qu'effectivement, leur donner des calories propres, ça va pas faire la différence. T'es obligé de donner des choses grasses, des choses lourdes. Ça peut être pizza, ça peut être sushi, ça peut être un gros steak, ça peut être plein de choses. Il y a des gens qui peuvent, il y a d'autres qui ne peuvent pas.
Ouais, non, mais ça, je comprends.
Déjà, dans l'idée en tête, il faut que j'ai un repas triché une fois par semaine. Ben, moi, je dis, on arrête, on ne va pas travailler ensemble parce que t'as pas compris.
Ouais. En fait, il faut que ce repas triché, il ait un rôle dans la préparation.
Absolument. Il faut, comme Jay Cutler le dit, tu sais, pendant ta carrière de culturiste, quand tu manges pour une raison. Tu manges pas pour le goût. On ne mange pas pour le goût. Le culturiste ne mange pas pour le goût. Tu manges parce que tu sais que c'est pour ta récupération, c'est pour ta construction de masse musculaire. C'est la seule raison pour laquelle on mange. Qui c'est qui va manger du poulet à chaque repas? Qui c'est qui va manger des œufs tous les matins? Non. Moi, à la base, je suis pas un mangeur. Moi, tu me donnes un repas par jour, je suis l'homme le plus heureux de la Terre. Ouais. Mais par ma carrière, je me suis programmé, je me suis forcé pour pouvoir manger tous les 3 heures. Là, je suis dans une bonne période. 4 semaines avant la compétition, j'ai une appétit féroce. Et depuis, c'est la même.
Mais tant mieux.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que mon corps assimile. C'est pour ça que j'ai toujours dit, ce n'est pas combien de repas on mange dans une journée, combien de repas on assimile. C'est ça qui fait la distance. Donc, moi, je dis 6 fois, mais assimiler que 3. Donc, tu ne fais que forcer ton système digestif à travailler plus. Et en plus, non seulement l'argent que tu mets dans ton poulet, tout ça, s'il n'est pas assimilé, ben, ça part dans les chiottes.
Ouais.
De l'argent, c'est qu'il part dans les chiottes. Donc, il faut être sensible à tout ça, tu vois. Il y a plein de choses. Je sais que, par exemple, je suis réglé. Au niveau toilette, je vais tous les jours normalement. Ouais. C'est pas un jour, c'est liquide, un jour, je suis constipé. Ça aussi, ça te parle. Comment ouais. tu processes l'alimentation. Donc,
personne n'en parle de ça, tu vois, de toutes ces choses-là, de justement, de tous ces réglages, d'être organisé tous les jours à la même heure, machin. Et ça, c'est vrai que tout ça, c'est des messages que nous envoie notre organisme, quoi.
C'est pour ça que j'ai toujours dit, il faut savoir écouter le corps. Le corps te parle. Mm-hmm. À toi de l'écouter ou pas. Mais parce que, tu sais, c'est pour ça, c'est très important que des gens comme nous, comme toi, comme moi, comme Eric, disent les vraies bases de ce sport, les vraies valeurs, les choses, effectivement, que les gens n'en parlent pas. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde que des likes, faut mettre des choses qui brillent, qui vont attirer l'attention des gens et tout. Non, faut être vrai. Pour sauver ce sport, Il faut le défendre avec les vraies valeurs et revenir à la base. Souvent, les gens compliquent, c'est ça qui m'énerve. Tous ces charlatans de nos jours, ils compliquent la chose parce qu'il y a des gens qui pensent que plus c'est compliqué, mieux c'est, et c'est comme ça qu'on obtient les résultats. Et quand toi, tu viens, tout ça, c'est pour ça que je n'utilise jamais des mots scientifiques, je ne complique jamais les choses. Ce sport est simple, mais pas si simple que ça, quand tu comprends comment les choses fonctionnent.
C'est sûr.
À partir de là, c'est et accepter. Voilà, je suis encore par rapport à tes progrès, par rapport à ta génétique. Il y a des gens qui peuvent gagner 5 kilos de muscle par mois. Il y a des gens qui vont les gagner en une semaine. Est-ce qu'on est tous égaux? On n'est pas tous égaux. Voilà. Et il y a des gens, tu sais, voilà, il y a des gens que déjà de base, ils ont une appétit féroce. Ils mangent. Ça fait des bons bodybuilders. Si tu passes ton temps à te forcer. Déjà, tu sens que tu es limité de ce côté-là. T'sais, j'ai forcé ma machine. Moi, j'ai forcé mon estomac parce que je dis, je pesais 53 kilos et je suis monté jusqu'à 130 kilos. Et c'était, je me rappelais à l'époque quand j'étais en France à mes débuts, je m'étais payé la mutuelle exprès pour pouvoir aller voir mon médecin et qu'il puisse me prescrire du Runitril et de l'Alburon. Tu te rappelles de ça?
Non, je sais quoi.
C'était en fait, à l'époque, c'était des boissons en fait riches en protéines.
Ah, qu'on donnait pour les gens qui étaient malades, pour se requinquer un petit peu.
500 calories par canette. Et je me rappelle, tous les mois, j'en avais 60. Je buvais deux par jour, après les repas. Ah, c'était juste énorme. J'ai attrapé un fils et comme ça, j'avais le ventre comme ça. Mais voilà, c'était de l'entraînement aussi pour
charger mon... les calories, quoi.
Ça mangeait, bien sûr.
Mais bon, ça a payé. Après, c'est vrai que trop manger. Les gens pensent que le régime est très difficile, mais manger plus, c'est encore plus difficile. Enfin, moi, j'ai jamais eu trop ce besoin-là parce que j'ai beaucoup d'appétit. Donc, moi, j'ai plutôt tendance à essayer de lever le pied, même quand je prends du poids, je mange jamais à ma faim, moi. En fait, je suis tout le temps, et je fais partie de cette catégorie de personnes. Je suis
toujours faim après un repas.
Voilà. Pourtant, bon. Et je peux comprendre que c'est difficile parce que j'ai des amis autour de moi qui me disent je mange beaucoup, mais eux dans leur tête ils ont l'impression de manger beaucoup, mais ils mangent peu finalement. Et puis après il y a aussi cette capacité à apprécier les aliments. Moi tu mets du 500 grammes de riz, je peux les manger. Il y a beaucoup de personnes pour qui 500 grammes de riz, au bout de 100 grammes ils ont besoin de passer à autre chose. T'as pas des pâtes à la place ou de la sauce parce qu'ils sont pas capables de manger le même aliment en grosse quantité. Et ça je pense que c'est aussi un frein pour les athlètes, ces personnes qui ont trop difficile au niveau de la nourriture, au niveau des goûts, au niveau des papilles et tout, quoi.
Comme tu l'as dit au début, de toute façon, si ça commence comme ça, tu sais que tu ne seras pas un champion et que tu ne vas pas atteindre les objectifs, entre guillemets, que tu t'es fixé. Parce que ça devient un régiment, ça devient une discipline. Tu manges pour un résultat. À partir de là, on ne réfléchit plus, on n'a rien. Voilà, à un moment donné, j'étais programmé. Tous les 3 heures, si je mangeais pas, je commençais à trembler parce qu'il fallait que je mange pour la croissance musculaire. C'est comme ça, c'est pas autrement, j'avais pas faim. Pour manger, je me mettais en short pour être à l'aise. Ouais. C'est ce que je veux dire. Et tant que je finissais pas ce qu'il y avait dans l'assiette, je pouvais rester 1 heure devant, je le quittais pas.
Ouais.
Moi, ça m'arrivait, tu sais, je finissais, ça remontait. Hein. Je partais au chiottes pour le vomir. Tu vois, chose que je voulais pas, parce qu'il fallait après remanger pour remettre ses calories.
Oui.
C'est pareil, c'est une discipline. Et c'est pour ça que je n'aime pas aujourd'hui tous ceux qui chialent et qui pleurent et qui crient. C'est un choix personnel. Vous avez des objectifs. Voilà le chemin. Pour y arriver, c'est comme ça, c'est pas autrement.
Mais il y en a beaucoup qui veulent faire l'impasse, justement, sur toute la partie nutrition. Et en fait, ils s'entraînent, ils ont pas les résultats qu'ils attendaient. En fait, ils ont pas encore le bon physique. La diète, ça leur semble trop dur. Ils passent à la case dopage. Et en fait, ça me fait mal quand je vois ces gens-là. Parce que je me dis, ils ont pas compris que même les athlètes de haut niveau, malgré qu'ils aient l'aide chimique, l'entraînement qui va bien, ils font quand même la diète.
Alors, on va parler de ça, par rapport à ça, parce que c'est très, très important. Déjà, à la base encore, avec des mots très simples. Le dopage, c'est quoi? Le dopage, ce n'est ni plus ni moins que des fixateurs de protéines. Si on avait une capacité à fixer l'azote, à fixer les protéines dans la cellule, on serait tous des Ronnie Coleman. Ce n'est pas le cas. Tu prends ta protéine, tu fixes un petit peu, le reste, ça part dans les guichets. Avec les produits, tu construis un barrage. Le barrage, il est construit. Toute la protéine que tu manges, il faut en manger en grosse quantité d'ailleurs, ça reste dans le corps. Donc, la fibre grossit. C'est pour ça que tu arrêtes les produits anaboliques, tu ouvres le barrage, et ben ça se barre. Donc, tu perds au niveau de cette masse que tu as construit. Donc, sans un entraînement très adéquat, très intense, très dur, une alimentation adaptée à ça, aucun produit de peau ne va marcher. Tu vas grossir peut-être, ce n'est que de la rétention d'eau. Mais si la fibre n'a pas été matraquée et qu'il n'y a pas ici d'apport en nutriments essentiels pour construire cette fibre-là, les produits dopants, ça ne sert strictement à rien. Alors, la seule chose, voilà, et ça on peut en parler parce que ben, je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui en France, et la chose qui est extraordinaire ici aux États-Unis, c'est tous ces laboratoires qu'on a et les médecins qui sont faits pour traiter l'anti-âge. Parce qu'on sait très bien qu'un homme.
En France, c'est pas encore prêt. Enfin, la France n'est pas encore prête pour ça. J'ai vu que ça arrive en Italie. Il y a des pays européens où ça arrive. En France, c'est pas bien vu en fait parce que c'est pas. En fait, c'est du confort pour la France. D'après ce que j'ai compris, c'est pas réellement une maladie l'anti-âge pour eux. Pour améliorer la vieillesse pour eux, c'est du confort.
Commence à perdre ta libido, à ne plus avoir de force, à ressembler à rien, à avoir de la gynécomastie, à avoir un taux de gras qui s'installe comme une femme, parce que c'est juste normal. À partir de 35 ans chez un homme, tes hormones commencent à chuter, donc tu commences à perdre de la testostérone, et ben voilà, tu récupères plus de la même chose, t'es tout le temps fatigué, t'es grincheux, et voilà, tu ne satisfais plus ta femme, parce que y a plus d'envie, et ça, ils font parler, parce que c'est très bien avec des médecins suivis qui trouvent le dosage qu'il faut. Tu sais, pas pour en faire de toi un Superman. C'est juste pour
rééquilibrer.
Que tu puisses vivre normalement. Qu'à 60 ans, tu te sens pas comme un légume, t'es plutôt comme un jeune homme de 30 ans.
Mais ce qui est fou, c'est qu'ils le font pour les femmes à la ménopause, mais pas pour les hommes. Tu vois, on parle de l'andropause souvent et ils disent que l'andropause chez les hommes, il y a rien parce que c'est plus, comme tu dis, ça démarre à 35 ans. Enfin, ça démarre. En fait, c'est toute notre vie, nous, on se dégrade. Les hormones commencent à chuter, voilà. Mais vu que c'est pas quelque chose de brutal, etc., ben, nous, on a rien. Enfin, c'est rien, bien. En tout cas, de reconnu, quoi. Et même en France.
Qui perdent beaucoup leur argent dans tout ce qui est complément alimentaire par rapport au booster de la testostérone. Je peux vous dire, arrêtez, hein, vous perdez juste votre argent. Hein.
Le tribulus.
Exactement, voilà. Voilà. Ça sert strictement à rien.
Ouais. Bon, écoute, Mousse, je pense qu'on a fait, plus de 2 heures ensemble là. Franchement, moi, j'ai pas vu passer le temps. C'était excellent. Les gens auront eu, je pense, en 2 épisodes, puisque là, je vais en profiter pour faire 2 épisodes. J'aimerais un petit peu que tu nous dises si les gens ont envie de te contacter peut-être pour des suivis. T'en fais toujours des coachings, des prépas. Ouais. Donc je sais que toi t'es hyper strict sur le choix des personnes. Donc ne contactez pas Mousse. Si c'est pour juste aller à la plage avec des abdos, ça sert à rien. Je crois que Mousse.
Non, ça peut être si c'est le cas et que les gens le prennent vraiment au sérieux. Je peux les aider. Je ne prépare que des athlètes. Je ne prépare pas que des athlètes. Mais j'aime tellement ce que je fais. Je suis un passionné. Au moment où quelqu'un fait appel à moi, c'est pour faire appel à mes connaissances, à toutes ces années de connaissances et de pratiques. Donc, ton objectif devient le mien. Donc, ne me mens pas. Ne me raconte pas des bobards. Je t'envoie un programme. Le programme, faut qu'il soit suivi à 100%. Parce que moi, de l'autre côté, c'est moi qui se casse la tête. Quand je travaille avec des gens,
Tu t'investis personnellement, quoi.
Ta bouche est de manger et de t'entraîner. Tu le casse-tête. Pourquoi ceci ne grossit pas? Pourquoi je récupère pas? Ça, c'est moi. Mais si tu me mens, tu me prends pour un débile, alors que moi, je suis en face de ton programme et je sais mon travail, comment, je sais le résultat que tu dois avoir. Je vais le voir tout de suite. Ça va m'énerver et j'appuie sur le bouton éject et terminé parce que je ne fais pas ce boulot pour l'oseille.
Voilà. Donc, vous l'avez compris. Si vous voulez le contacter, Facebook?
Facebook, Instagram.
Et donc,
Instagram.
Voilà. Site internet, t'as un site internet ou pas?
Non.
D'accord. Donc Facebook ou Instagram, je mettrai de toute façon les liens. Moi, je vous invite à aller voir toutes les vidéos qu'il a fait avec Eric, les podcasts également. Je pense que quand vous aurez fait toute la collection déjà, votre niveau, vous aurez atteint un certain niveau en termes de connaissances, de perception à l'entraînement, etc. Je pense que c'est très intéressant pour tout le monde, compétiteur ou non, parce que je vous rappelle que moi, je suis passionné, mais je suis pas compétiteur. Et pourtant, tous les sujets qu'ils ont abordés, ça m'a passionné. Donc, merci encore pour ta sincérité, ta disponibilité.
Merci beaucoup.
Et puis, si on a beaucoup de demandes, peut-être que je te recontacterai si tu trouves du temps pour nous.
Écoute, je trouverai toujours du temps pour des gens passionnés comme moi qui aiment ce sport, qui le respectent. Comme je dis souvent, comme tu l'as dit aussi, compétition, pas compétition, on fait la même chose. C'est, on s'entraîne, on sculpte notre corps. C'est ça, c'est du sculpturisme. Voilà. Ouais. Donc, j'aime le partage, j'aime communiquer avec les gens et juste, voilà, j'aime aider les gens, mais, et les aider pour de vrai. Pas juste la poudre aux yeux. Voilà. Donc, c'est ça qui me rend heureux.
Super. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, nous, on se retrouve un petit peu en off. Et puis sinon, les auditeurs, ce sera pour le prochain épisode. Salut Mousse.
Bah, merci à tout le monde. Bye bye.
Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'à la fin. Donc, je vous rappelle juste que le podcast Fitness Smith est 100% gratuit, que vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes d'écoute de podcast, Apple Podcast, iTunes, Android Podcast, SoundCloud, etc., etc., etc. N'hésitez pas à mettre un avis sur la plateforme que vous préférez directement pour m'aider un petit peu à remonter dans les résultats. Et si vous voulez soutenir comme les VIP, si vous voulez soutenir cet épisode, vous pouvez retrouver un lien qui vous permettra d'accéder à un formulaire pour me soutenir, donc financièrement, et qui vous donnera accès à tout un tas de vidéos VIP, plein de bonus, etc., des programmes, etc., etc. Donc merci à tous pour votre confiance, et on se retrouve la semaine prochaine. Salut.